Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast Une certaine idée de l'Europe. Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est de l'Union européenne, nous parlerons des avancées sur la question ukrainienne, du sommet entre l'UE et l'Union africaine, d'une décision historique de la CJUE. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons d'une déclaration du secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, d'un rapport de la commissaire aux droits de l'homme et d'un arrêt récent de la CEDH. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons. Commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, le 10 février 2022, le secrétaire général adjoint, lors de son intervention à la Conférence mondiale pour la liberté des médias tenue à Tallinn, en Estonie, a déclaré « Les droits de l'homme, droits fondamentaux, s'appliquent et doivent être respectés même pendant les crises ». Le secrétaire général adjoint a souligné à quel point des circonstances exceptionnelles marquent notre époque, avec un essor sans précédent des technologies numériques et plusieurs modifications de l'environnement politique, dont la propagation de fausses informations, de discours de haine et de la désinformation, à laquelle s'ajoutent les effets de la Covid-19. Il a aussi fait référence à l'article 10 de la CESDH qui protège la liberté d'expression de tous les Européens, dont la liberté des médias. Le secrétaire général adjoint a souligné l'importance de la plateforme pour renforcer la protection du journalisme, car ces dernières années, les intimidations, les restrictions et les attaques ont augmenté. Rien que l'année dernière, 6 journalistes ont été tués en Europe, a-t-il conclu. Ensuite, dans son nouveau rapport d'évaluation du 14 février 2022, le comité d'experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires recommande aux autorités norvégiennes de s'efforcer prioritairement à renforcer les moyens de redynamiser et de développer les langues minoritaires les plus menacées, le Gven, le Sam de Lul et le Sam du Sud, les Romanes et le Romani. La Norvège est certes l'un des 4 pays de l'OCDE consacrant le plus d'argent public à l'éducation, et le financement des écoles y est bien assuré. Mais des améliorations restent possibles en matière de matériel pédagogique, y compris les outils numériques, ainsi que de formation et de recrutement d'enseignants pour les langues minoritaires. Les autorités devraient notamment faire l'inventaire de la demande d'enseignement des langues SAM à chacun des niveaux d'enseignement, de la maternelle à l'enseignement supérieur. Elles devraient également agir pour renforcer le recrutement d'enseignants du Gven et du SAM. Le Gven, le SAM de Lul, le SAM du Sud, les Romanes et le Romani risquent de disparaître en tant que langue maternelle parmi les jeunes générations. De plus, le 15 février 2022, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a rendu public son rapport sur sa visite à Malte d'octobre 2021, qui contient des recommandations visant à aider Malte à garantir la liberté des médias et à assurer la sécurité des journalistes, à protéger la vie et la dignité des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants, et à renforcer les droits des femmes, des demandeurs d'asile et des migrants, et à renforcer les droits des femmes. La commissaire recommande de répondre de manière coordonnée aux menaces et aux attaques visant des journalistes, y compris en ligne, et de sensibiliser davantage les membres des forces de l'ordre à ce phénomène. Concernant l'asile et les migrations, la commissaire insiste sur la nécessité d'augmenter les capacités de Malte et d'assurer la coordination effective des opérations de recherche et de sauvetage. En vue de faire progresser les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes, la commissaire recommande de poursuivre les réformes et notamment d'adopter sans tarder la loi sur l'égalité et la loi sur la commission de l'égalité des droits de l'homme. L'interdiction totale de l'avortement à Malte menace gravement le droit des femmes à la santé. Enfin, dans l'arrêt Anatoli Marinov contre Bulgarie, la CEDH doit se prononcer sur le retrait non justifié du droit de vote des personnes placées sous tutelle. Monsieur Marinov se plaignait de ne pas avoir pu exercer son droit de vote lors des élections législatives bulgares de 2017. Conformément à la Constitution, celui-ci lui avait en effet été retiré automatiquement en 2000 lorsqu'il avait été placé sous tutelle partielle à raison de problèmes psychiatriques. La Cour juge que le retrait indiscriminé de son droit de vote à M. Marinov, sans contrôle judiciaire individualisé et au seul motif qu'il avait été placé sous tutelle partielle, n'était pas proportionné au but légitime poursuivi par la mesure. La Cour condamne donc la Bulgarie pour violation de l'article 3 du protocole numéro 1 de la CESDH sur le droit à des élections libres. Passons à l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord, après plusieurs semaines de crise, le Kremlin a annoncé mercredi 16 février 2022 le retrait d'une partie de ses troupes massées à la frontière avec l'Ukraine. Mais l'Union européenne, qui joue les médiateurs entre Moscou et Kiev, reste méfiante et attend des actes sur le terrain. Cette déclaration, entre la menace et la tentative d'apaisement, illustre l'intensité de la crise entre Moscou et les Occidentaux. Le déploiement d'importants contingents russes à la frontière avec l'Ukraine depuis l'automne 2021 laisse toujours craindre un nouveau conflit sur ce front. Le Kremlin a pourtant annoncé mercredi le départ d'une partie de ses forces militaires de Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Dans cette situation, l'UE a dû faire office de médiateur entre l'Ukraine et la Russie pour éviter un conflit avec les interventions du président français, mais aussi du chancelier allemand. La situation reste tendue, il faut donc rester vigilant. Ensuite, 40 chefs d'État et de gouvernement africains et 27 dirigeants européens se sont réunis Ensuite, 40 chefs d'État et de gouvernement africains et 27 dirigeants européens se sont réunis à Bruxelles, où le 6e sommet UE-Union africaine a débuté jeudi après-midi 17 février 2022. Un sommet de refonte de la relation Afrique-Europe. Les enjeux et les besoins sont colossaux. Les dirigeants se retrouvent deux jours autour de tables rondes thématiques pour élaborer une série de projets concrets dans tous les domaines. Les partenaires ont tracé quelques lignes directrices. La première des grandes lignes tient au format même de la rencontre, cette table ronde pour un meilleur échange, une meilleure écoute. Cet aspect a été souligné par le président du Conseil européen, Charles Michel, et pour le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. Il s'agit bien de co-construire, d'adopter un nouveau logiciel des relations entre les deux continents. La question de l'écologie et de la transition écologique a été avancée, et malgré le fait que beaucoup d'États africains soient partis à l'accord de Paris, ils ont martelé le fait que plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, et que c'est donc une priorité pour eux, quand bien même ils aient besoin de recourir à des centrales électriques au gaz. Le FMI chiffre à plus de 221 milliards d'euros les besoins du continent dans les 3 ans à venir pour amortir le choc de la pandémie, et l'UE promet 150 milliards d'euros, une somme encore indicative qui englobera investissements publics et privés. De plus, dans un verdict historique rendu ce mercredi 16 février 2022, la justice européenne a confirmé que l'Union pouvait priver de fonds communautaires les États membres qui n'en respectaient pas les fondements, à savoir les valeurs communes de l'État de droit. Cela constitue un revers cinglant pour la Hongrie et la Pologne qui pourraient bientôt être privées de plusieurs milliards d'euros d'aide européenne. La CJUE a ainsi rejeté le recours de Varsovie et Budapest contre le nouveau mécanisme destiné à conditionner les aides des États membres au respect de l'État de droit et des valeurs communes européennes, notamment dans le respect des droits de l'homme. Par ailleurs, un eurodéputé nationaliste bulgare a fait, mercredi 16 février, un salut nazi dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, un geste condamné par la présidente de cette institution et qui pourrait donner lieu à une sanction. Après être intervenu lors d'un débat sur l'état de droit en Pologne et en Hongrie, en remontant les marches menant à la sortie de l'hémicycle, Engel Dzambaski, du groupe eurosceptique ECR, se retourne et tend le bras droit devant lui quelques secondes avant de repartir, peut-on voir sur la vidéo du débat disponible sur le site du Parlement européen. Il avait d'ailleurs qualifié d'abomination la décision de la CJUE de valider la conditionnalité de l'octroi des aides européennes. Par ailleurs, Thierry Breton, commissaire européen, propose une suppression de la TVA pour le marché européen de la défense afin de le rendre plus compétitif face aux offres américaines. La compétition entre le F-35 américain et les avions de combat européens, le Rafale en tête, va-t-elle inciter l'Union européenne à modifier les règles fiscales en matière d'armement? C'est le souhait de Thierry Breton, commissaire européen. Le 15 février, la Commission européenne a dévoilé une série de mesures significatives en matière de défense européenne afin de stimuler l'innovation et à remédier aux dépendances stratégiques. Parmi ces actions, une exonération de la TVA est envisagée dès 2023. D'autre part, après l'avertissement du Comité européen du risque systémique, il y a moins d'une semaine, c'est au tour de la Banque centrale européenne, BCE, de lancer ce mercredi 16 février 2022 son avertissement. Selon elle, le marché de l'immobilier présente d'importantes vulnérabilités qui menacent les banques de la zone euro. D'une part, la demande d'immobilier de bureaux chute avec l'essor du télétravail et, d'autre part, l'endettement des particuliers gonfle avec leur désir d'acquérir des biens plus spacieux après les longues périodes de confinement. Certes, les risques de bulles immobilières alimentées par la politique de taux extrêmement bas voire négatif et par une politique prudentielle très souple sont repérés de longue date par les banquiers centraux. Mais dans sa dernière lettre d'information en date, la BCE semble vraiment s'inquiéter pour l'immobilier commercial et l'immobilier résidentiel, précisant au passage que ces deux secteurs seront soumis à une surveillance plus étroite. Ensuite, garde-fou des institutions européennes concernant les questions liées à la vie privée et aux données personnelles, le contrôleur européen de la protection des données, CEPD, vient de publier un rapport sur le logiciel espion Pegasus. Le contrôleur européen de la protection des données vient de publier un rapport de 12 pages dans lequel il s'inquiète de la protection des données des Européennes et des Européens. En cause, des logiciels espions tels que Pegasus, qui représentent, par leur caractère intrusif, un risque sans précédent mettant en péril l'essence du droit à la vie privée. En effet, il s'agit dans le présent rapport de mettre à nouveau en lumière les enjeux autour de l'utilisation étatique d'un tel logiciel espion, son caractère insidieux, selon la méthode d'attaque zéro clic, ainsi que la difficulté à le détecter sur les smartphones infectés, constituent autant de dangers au sein de l'UE. Il est donc indispensable d'imposer des limites à ces usages. Par ailleurs, une quarantaine d'arrestations ont eu lieu dans 6 pays européens lors d'une opération de police coordonnée par Europol. La cible, un trafic international de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. La majorité des interpellations a eu lieu en Belgique. Les trafiquants sont originaires d'Europe de l'Est et du Sud de l'Europe. Plus de 100 perquisitions ont eu lieu en Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas et Croatie. La drogue transitait dans des porte-conteneurs dans les ports d'Anvers, Rotterdam, Le Havre et Hambourg. Mais pas seulement. Près de 90 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2021 dans le port d'Anvers, un record. La Belgique est devenue la principale porte d'entrée en Europe pour cette drogue. De plus, dans une rare déclaration commune à l'occasion du sommet spatial européen qui vient de s'achever à Toulouse, les astronautes européens appellent à la mise en place d'un programme de vol habité. Après une étude du CNES l'an dernier, puis l'appui du directeur de l'ESA, l'agence fera ses propositions d'ici novembre. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'en novembre 2022 se tiendra l'Assemblée ministérielle de l'ESA, qui a lieu une fois tous les 3 ans et qui fixe le cap de tous les projets et orientations à venir. Un balai politique, médiatique et budgétaire très important pour l'une des plus grandes agences qu'il faut préparer minutieusement. C'est donc un moment clé qu'ont choisi les astronautes de l'ESA, appuyés par leur directeur, pour plaider en faveur d'un programme habité européen. D'autre part, 22 autorités européennes de protection des données, dont la CNIL, chapeautée par le Comité européen de la protection des données, CEPD, lance une action sur l'utilisation par le secteur public des services utilisant le cloud. Elle souhaite s'assurer que ces solutions respectent bien le RGPD. L'objectif de cette action est de vérifier que les services cloud utilisés par les organismes publics respectent bien la réglementation européenne. Dans les détails, plus de 75 organismes publics situés dans l'espace économique européen, y compris les institutions de l'UE, sont concernés. Ils opèrent dans un éventail de secteurs, de la santé aux finances, en passant par l'éducation. Les autorités de protection examineront les défis des organismes publics en matière de conformité au RGPD lors de l'utilisation de services basés sur le cloud, y compris le processus et les garanties mises en œuvre lors de l'acquisition de services cloud. Les défis liés aux transferts internationaux et les dispositions régissant la relation contrôleur-sous-traitant. La CEPD publiera les résultats de cette action avant la fin 2022. Enfin, le 11 février 2022, le Conseil des éditeurs européens, European Publishers Council, EPC, a déposé une plainte contre Google auprès de la Commission européenne. Les éditeurs affirment que Google exerce une emprise déloyale sur la presse. Dans sa déclaration officielle, le Conseil des éditeurs européens précise vouloir briser la mainmise de l'AdTech que Google exerce actuellement sur les éditeurs de presse et toutes les autres entreprises de l'écosystème AdTech. Le Conseil demande à la Commission européenne de tenir Google responsable de son comportement anticoncurrentiel et d'imposer des mesures coercitives afin de rétablir les conditions d'une concurrence effective dans la chaîne de valeur. Le Conseil des éditeurs européens assure que ce comportement anticoncurrentiel continue de causer un préjudice considérable non seulement aux éditeurs de presse européens, mais aussi à tous les annonceurs et finalement aux consommateurs qui payent de plus en plus cher l'information qui ont de moins en moins de choix et qui profitent de moins en moins d'innovations. Pour le Conseil des éditeurs européens, pour la viabilité future du financement d'une presse libre et pluraliste, cette décision ne peut plus durer. Reste à voir si la Commission inflige à Google une sanction suite à cette plainte des plus intéressantes. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi. À la prochaine, très chers auditeurs.